La cordonnerie. Quelques clous dans la bouche, assis sur son tabouret, le cordonnier œuvrait dans une boutique souvent exiguë, excepté le lundi. Le lundi chômé. Le lundi était en effet un jour chômé pour les cordonniers, sur ordre de leur saint patron, Saint Crépin, et ils en profitaient donc pour s'approvisionner en cuir et, disaient les mauvaises langues, se retrouver au café pour boire un coup. Ils achetaient du veau russe, box calf, kid, chèvre, vache ou poulain, qu'ils travailleraient ensuite. Le cordonnier. Autrefois, le cordonnier n'avait pas très bonne réputation. On disait que le métier était fait pour les hommes qui ne pouvaient pas rester debout sans se fatiguer. Il est vrai que beaucoup étaient boiteux ou avec une jambe de bois. Maladie, guerre. Il passait sa journée à ressemeler, découper, assembler, clouer, coller, coudre et recoudre. Les outils. Sur son établi et sa table de travail, quelques outils qui lui étaient indispensables. Marteau, alène, emporte-pièce, fer à lisser, enclume, fil, aiguille, sans oublier la machine à coudre. Des petits casiers contenaient des clous, œillets, crochets. Sur un petit poêle, un pot de colle chauffé dans le bain-marie toute la journée, et au sol, un baquet servait à faire tremper les cuirs. Des odeurs caractéristiques de cuir, de colle, de graisse, de cire ou de cirage embaumaient l'échoppe. Les chaussures. En plus des outils ou du mobilier, elles contenaient de nombreuses paires de chaussures pour femmes, hommes et enfants. Certaines paires sont encore neuves, comme les trois paires de Salomé des années 1920. D'autres, en revanche, ont été utilisées jusqu'à l'usure et auraient bien besoin d'une réparation. C'est le cas des paires de sandalettes d'enfants, pur cuir, qui servaient très souvent à toute la fratrie. À la fin du 19e, la mode était aux bottines à boutons pour ces dames. Lors de l'habillage, les femmes mettaient d'abord leurs dessous, puis leurs chaussures et enfin leurs corsets. Il fallait respecter cet ordre, sans quoi le corset les aurait gênées. Pour fermer les bottines, on utilisait un passe-bouton. Quelquefois, celles-ci pouvaient être équipées d'un talon tournant. Cette drôle d'invention consistait en un disque de caoutchouc vissé en son centre par une croix de fer non serrée. Cela permettait au talon de pivoter régulièrement, donc de subir une usure uniforme et ainsi d'éviter d'abîmer la semelle de la chaussure. Peu pratique, il n'eut malheureusement pas le succès escompté. Plus rustiques, les galoches ont fait leurs preuves en accompagnant des générations d'écoliers. Elles se composaient d'une semelle de bois et d'un dessus de cuir épais, montant et quelquefois garni d'une lanière à boucle. Sur le chemin de l'école, les enfants ainsi chaussés se moquaient du froid et de l'humidité. Pour les faire durer plus longtemps, le père de famille clouait des morceaux d'un vieil harnais ou de pneus sous la semelle. De simples clous pouvaient aussi faire l'affaire. Dans les années 1930, la semelle de crêpe, ainsi que des matériaux nouveaux, comme le caoutchouc, commencent à faire leur apparition et inquiètent les cordonniers et professionnels du cuir. Reste cependant un problème à résoudre. La chaussure doit être imperméable tout en laissant respirer la peau. Le cirage. On ne gaspille pas, alors ces chaussures, on en prend soin. On les graissait au moins une fois par semaine, ce qui les protégeait et maintenait l'imperméabilité de la chaussure. Pour les beaux souliers du dimanche, on utilisait le cirage à cracher dessus. Les grandes marques de cirage en boîte sont apparues après la Grande Guerre. Lion noir, Eclipse, Kiwi. À cette époque, il était le plus souvent noir, les chaussures fantasy n'étant apparues que dans les années 20. La boîte de cirage à papillon fut inventée dans l'entre-deux-guerres, ce qui la rend plus pratique. Pour cette invention, Gustave Valadon est primé au concours Lépine et un brevet lui est décerné en 1922. Puis les crèmes en tube et les sticks applicateurs détrônèrent le cirage en boîte. Les pénuries. Avec les années 1940 viennent la guerre et les pénuries. La semelle de bois est omniprésente. Ces semelles rigides sont souvent arrondies pour suivre le développement du pas lors de la marche. D'ingénieux cordonniers ont même inventé la semelle en bois articulée. Elle pouvait être composée de plusieurs pièces maintenues ensemble par un tissu ou un bout de cuir faisant office de charnière ou d'une seule pièce avec des stries coupées en diagonale. Après-guerre, la botte en caoutchouc se répand dans les campagnes, remplaçant les brodequins faits main. De fabricant de chaussures, le cordonnier devient surtout réparateur. Avec l'avancée de la technologie, les cordonniers se font de plus en plus rares, notamment à cause de la construction de fabriques. Le chômage dans le métier est en hausse et les jeunes se tournent vers des usines, plutôt que dans les boutiques traditionnelles. En Anjou. La fabrication de chaussures était une activité importante en Anjou, principalement dans la région de Cholet, où se trouvaient de nombreuses manufactures. Douai-la-Fontaine n'est pas en reste, en témoignent les boîtes de manufactures Sylar et Fils, situé en plein centre-ville, mais aussi le magasin de chaussures Émile ou encore la cordonnerie Grelier, d'où proviennent la table de travail ainsi que de nombreux outils.